se réjouit de ce que Dieu fait. On va lire deux passages dans la Bible qui est un recueil de livres, de 66 livres en tout. Il y a 39 livres dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, 27 dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est là qu'il y a les Évangiles, les Actes des Apôtres, les Épîtres aux Églises, et ainsi que le livre de l'Apocalypse. Et puis, dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, il y a plusieurs livres, notamment des livres prophétiques, écrits par des prophètes. Et on va lire donc un premier verset avant d'ouvrir un texte dans les Évangiles. J'aimerais juste introduire ce message avec le prophète Ésaïe au chapitre 1, verset 6. Ésaïe, chapitre 1, verset 6. On va lire uniquement le verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Amen. Ce verset nous montre une situation dramatique, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Tout est malade, rien n'est en bon état. Tout le corps est rempli de blessures, de contusions et de plaies vives. Ici, c'est ce que veut dire le prophète au travers de cette image. Il veut montrer au peuple d'Israël en l'occurrence, la situation dans laquelle il se trouve. Une situation dramatique où vraiment tout est en mauvais état. Rien n'est en bon état. Blessures, contusions, plaies vives. Et non seulement tout est en mauvais état, mais rien n'est fait pour que ça s'arrange. Rien n'est fait pour qu'il y ait des soins, pour que, eh bien, il y ait guérison ou adoucissement. Puisqu'il est dit que ces plaies-là n'ont pas été pansées, n'ont pas été bandées, donc il n'y a aucun soin qui sont prodigués. Et parfois, il est vrai qu'il n'y a rien à faire, la médecine ne peut rien faire, mais dans ce cas-là, on essaye d'atténuer les souffrances. Mais il est même dit, ni adouci par l'huile. C'est non seulement la situation d'un peuple, mais c'est la situation dans laquelle certaines personnes peuvent se retrouver. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Rien n'est en bon état. Et non seulement cela, s'ajoute à cela une douleur de ce que on ne peut pas être soigné, ni même être soulagé dans ces douleurs. Dans la Bible, il y a différentes maladies qui nous sont présentées, qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui, notamment une qui est assez fréquente dans la Bible, on la trouve à plusieurs endroits, il y avait même dans la loi de Moïse une réglementation à son sujet, c'est la lèpre. La lèpre qui encore aujourd'hui fait des dégâts, malgré qu'il y ait des soins, mais la lèpre encore aujourd'hui, malheureusement, fait bien des dégâts. Et nous voyons dans la Bible certaines personnes atteintes de la lèpre et on pourrait dire qu'ils pourraient s'identifier à ce verset, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Cette maladie va attaquer la peau, va attaquer les nerfs, les membres sont rongés, déformés. Rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et on a quelques exemples, notamment, on a cet exemple de Naaman, un officier, un chef militaire, mais il est lépreux. Il est lépreux. Il vit cela. Et cet homme, malgré tout ce qu'il est et tout ce qu'il a pu faire, vit avec sa lèpre. jusqu'au jour où Dieu va intervenir. Et puis dans les évangiles, nous avons aussi des personnes qui sont venues vers Jésus parce qu'ils étaient aussi atteints de cette lèpre, de cette maladie terrible qui non seulement atteignait leur corps, mais faisait en plus que ces personnes étaient rejetées, mises en quarantaine dans des lieux, dans des grottes, dans des cavernes, là où ils pouvaient être. Et ils vivaient entre lépreux, ils n'avaient donc que très peu, voire pas du tout, de vie sociale. S'ils avaient de la famille, leur famille pouvait leur apporter à manger, mais parfois certains n'avaient même plus de famille. On peut s'imaginer, eh bien, ce que pouvaient vivre ces personnes. Et dans les évangiles, nous voyons quelques-unes d'entre elles venir à Jésus. Jusqu'ici, ils vivaient avec leur maladie, sans qu'elle soit guérie, sans qu'elle soit soignée, ni même adoucie. Mais Jésus va les guérir. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais pas prendre l'exemple. J'ai eu à cœur un autre exemple que celui des lépreux. On va lire un texte dans Marc chapitre 5. On va parler d'un homme qui lui aussi vit quelque chose de difficile. Rien n'est en bon état. Rien n'est en bon état. Marc, chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Il le pria instamment de ne pas le renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la liaison, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Amen. Vraiment, on peut lui attribuer ce verset à lui aussi. Rien n'est en bon état. Quand on voit la situation de cet homme avant que Jésus, bien sûr, n'intervienne, dans sa vie, quand on voit la situation de cet homme, rien n'est en bon état. Rien. Il vit quelque chose d'horrible. Cet homme, qu'on appelle communément le possédé de Gadara, parce que, eh bien, c'est dans le pays des Gadaréniens, c'est-à-dire au sud-est de la mer de Galilée, il est là, et c'est un endroit où il y a des pentes escarpées qui se jettent dans la mer, et souvent à flanc de collines, comme cela, à flanc de montagnes, il y avait des sépulcres dans des grottes. C'est pour ça qu'il est dit qu'il vivait dans les sépulcres et dans les montagnes, parce que là, c'était la typologie de cette région. Et cet homme vit quelque chose d'horrible, rien n'est en bon état. Rien n'est en bon état. Déjà, il est possédé. Et il vit des tourments dans son âme, dans son esprit. Il est là, il y a une souffrance qui est là. Cette souffrance va se répercuter même sur son corps. On voit un homme qui est en train de se mutiler. Cet homme se blesse avec, se meurtrit avec des pierres. Cet homme est en train de crier. Et quand on crie, c'est qu'il y a quelque chose qui soit nous fait peur, soit qui nous fait souffrir. Il y a des personnes comme cela qui ont besoin de crier. Parce qu'il y a une souffrance intérieure qu'ils ont besoin d'exprimer. Et ils aimeraient être tout seuls quelque part pour pouvoir crier, tout ce qu'ils ont comme souffrance dans leur cœur. D'autres personnes encore se meurtrissent. J'ai pu connaître des personnes possédées aussi, qui se mutilaient. Et parfois, d'une manière horrible. Ils se mutilaient avec des objets coupants, ils se mutilaient le visage, ils se coupaient la peau. Il y avait une souffrance qui était là. D'autres se meurtrissaient avec des marteaux, avec des... Mais c'est horrible ce que peuvent vivre ces personnes-là. Et vraiment, rien n'est en bon état. Rien n'est en bon état. Quelle est sa situation sociale ? Même sa situation sociale, il n'a plus aucune vie sociale. Il a encore de la famille, puisqu'à la fin de l'histoire, on voit que Jésus lui dit « Va dans ta maison vers les tiens ». Donc cet homme a encore de la famille. Mais sa famille ne peut plus rien pour lui. Il n'a plus de vie de famille. Il vit seul, complètement seul, dans sa folie. Dans ses sépulcres sur les montagnes, il est là, complètement isolé, il n'a plus aucune vie sociale. Quelles sont encore les choses que cet homme peut vivre ? On a du mal à l'imaginer, certainement, il terrorise les gens, il voit dans leur visage certainement de la peur, de la crainte, ce qui en rajoute à ses souffrances. On a bien essayé de faire quelque chose pour lui, ne pouvant plus rien faire. Alors, certains ont essayé de le tenir avec des chaînes pour que au moins il ne fasse de mal à personne et qu'il ne se fasse plus de mal sur lui. On a essayé de le lier avec des chaînes, voilà. Mais le mauvais esprit qui était en lui découplait ses forces et il arrachait tout, il rompait ces chaînes-là. Et on le sait, parfois, ces personnes, leurs forces sont découplées, on ne peut plus rien. Vraiment, rien n'est en bon état. Et ce sont des plaies, vu qu'il vit seul, il se meurtrit, mais ça devient purulent. Voilà. Des blessures qui peuvent... Rien, même pas l'huile peut adoucir. Il n'y a plus rien à faire pour cet homme. On ne peut même plus apaiser ses souffrances. Aujourd'hui, on a des moyens médicaux. Au moins, on peut apaiser les souffrances. On injecte à ces personnes-là des tranquillisants, des choses pour les faire dormir. Mais à cette époque-là, il n'y avait rien. Et cet homme vivait dans ses souffrances. On peut vraiment dire, mais voilà, rien n'est en bon état. Et la situation de cet homme n'est pas du tout enviable, bien sûr. Alors, sans arriver à une extrémité comme celle-ci, peut-être que certaines personnes, aujourd'hui, peut-être même dans ce lieu, vivent des difficultés. Rien n'est en bon état. Vivent des souffrances intérieures, des meurtrissures intérieures. Et ces meurtrissures intérieures, vous voyez, elles s'expriment de toute manière. Et une souffrance intérieure va tôt ou tard s'exprimer, même visiblement, même peut engendrer des maladies. Dans la Bible, on le voit. Hein. Rien n'est en bon état. Alors, on a peut-être été voir des médecins, on a peut-être été voir certains spécialistes, comme cette femme atteinte d'une perte de sang dans les évangiles, se voyant malade, et ça faisait 12 ans, et bien cette femme a été voir tout un tas de médecins qui pouvaient exister à l'époque, mais il nous est dit que son état allait plutôt en empirant. Aucun médecin ne pouvait plus rien pour elle. Comme pour cet homme, plus personne ne pouvait rien pour elle. Et comme certaines personnes aujourd'hui, malgré, Dieu merci, malgré les avancées de la médecine d'aujourd'hui, merci au Seigneur qui donne de l'intelligence aux hommes pour trouver des remèdes, mais malgré cela, il faut quand même qu'on soit lucide, il n'y a pour certaines personnes plus rien à faire. Il y a certaines situations, sans parler de maladie, mais il y a certaines situations où il n'y a plus rien à faire. Sauf que dans cette histoire, quelqu'un va intervenir. Jésus. Les évangiles nous parlent de Jésus qui parcourait le territoire d'Israël pendant 3 ans, qu'a duré son ministère. Jésus a parcouru donc tout ce territoire et il a fait beaucoup de miracles, notamment à Capernaum, de l'autre côté de la mer de Galilée, à l'opposé de la mer de Galilée, là on est dans le pays des Gadaréniens, donc l'autre côté, et Jésus a traversé la mer. Et là, il y a eu une grande tempête, à la fin du chapitre 4, on le voit, ils ont traversé la mer et ils arrivent. Après avoir essuyé cette tempête, ils arrivent dans ce pays des Gadaréniens. Aussitôt, il nous est dit que cet homme est venu vers lui. Oui. Qui lui a parlé de Jésus? Cet homme, il vit seul. Hein. Mais les mauvais esprits qui sont là savaient pertinemment que leur heure était venue. Et se sont mis à supplier Jésus, hein, ne me tourmente pas. Mais nous voyons dans l'intervention de Jésus la révélation de son amour. Aussi bas qu'un homme soit tombé, qu'une femme soit tombée, Jésus l'aime. Alléluia. Alors ça, c'est extraordinaire. Et j'aime beaucoup lire les évangiles parce que nous voyons des personnes vraiment à l'extrémité, des personnes rejetées par tout le monde, des personnes qu'on ne peut plus rien faire pour eux, mais Jésus intervient. Jésus va vers ces personnes. Plus personne n'allait vers lui. Il faisait peur à tout le monde, cet homme. Il faisait peur à tout le monde. Mais Jésus, dans son amour, va aller vers lui. Pourquoi Jésus a-t-il décidé de traverser la mer de Galilée? Remarquez que Jésus, il n'est resté que peu de temps dans le pays des Gadaréniens, parce qu'on lui a dit aussitôt va-t'en, hein. Donc il a traversé la mer, une tempête, juste pour un homme. D'ailleurs, on se posait la question, mais après avoir délivré cet homme, les gens lui disent de partir. Hein. Comme quoi, même un miracle peut être mal reçu. Mais en tout cas, Jésus a fait tout ce déplacement pour aller délivrer un homme, pour aller bénir un homme, comme il a fait le déplacement pour la femme samaritaine. Jésus se déplace pas simplement pour des foules, mais Jésus se déplace pour une seule personne. On pourrait dire parfois, mais avec tout ce qu'il y a comme malheur dans le monde, ces foules entières, ces pays qui vivent des drames, est-ce que Dieu vraiment pense à moi? Voilà. Avec mes problèmes, j'aimerais vous dire que Dieu pense à vous. Il pensait à cet homme, il savait qu'il y avait là un homme qui vivait quelque chose de terrible, d'horrible. Et Jésus va révéler son amour pour lui, mais aussi son autorité. Sa puissance est à l'œuvre, son autorité. Car qui a la puissance sur ces démons-là? Qui a la puissance sur les puissances de ténèbres, si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ? Personne d'autre. Tout lui a été soumis. tout lui a été soumis. L'apôtre Paul, dans la Bible, nous dit même que à la croix, Jésus, sur la croix, ce ne sont pas les ténèbres qui ont vaincu à la croix. C'est Jésus, alléluia, qui a vaincu. Il a triomphé à la croix de toutes ses puissances. Il les a mis en spectacle de toutes ses dominations, de tous ces esprits impurs qui sont dans les lieux célestes. Jésus les a vaincus. Il a triomphé d'elles par la croix. La croix n'est pas la victoire de Satan. La croix, c'est la victoire de Dieu sur le péché, sur toutes ces choses qui se passent, sur ces ténèbres qui sont là. Jésus est tout puissant. Alléluia. Il dit un mot et la chose arrive. Il a autorité sur toutes les puissances démoniaques. Il a autorité sur la maladie. Lorsque Jésus s'est penché sur la belle-mère de Pierre, il a menacé la maladie et la maladie est partie. Il a l'autorité sur la maladie. Jésus a toute autorité. Quel contraste entre l'avant et l'après. Après, il nous est dit que cet homme est assis, vêtu et dans son bon sens. Assis, vêtu et dans son bon sens. Il est assis. Quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui est tranquille. Il est assis. Il est équilibré maintenant. Il est vêtu. Donc ça veut dire que probablement qu'avant il était nu, ou alors avec des vêtements complètement déchirés. Dans sa folie, il devait tout déchirer. Donc maintenant, il est vêtu. Il est là, donc il retrouve une place dans la société, il retrouve une certaine dignité humaine que lui avaient enlevé ses puissances ténébreuses. Et puis, eh bien, il est dans son bon sens. Voilà, un homme qui est réfléchi, un homme qui est lucide. Voilà, il a du bon sens. Et Jésus va le renvoyer vers sa famille. Donc, il va pouvoir retrouver une vie de famille, il va pouvoir retrouver une vie dans la société. Voilà ce que Jésus opère. On va revenir sur notre texte d'introduction dans Ésaïe chapitre 1er, verset 6. Nous sommes là au début du message du prophète Ésaïe. Ésaïe donc dit que de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. C'est que blessures, contusions, plaies vives. Rien n'est pansé, toutes ces blessures, rien n'est bandé, ni adouci par l'huile. Donc il n'y a rien qui est fait pour que ça change, rien qui est fait non plus pour qu'il y ait un soulagement. C'était la situation du peuple. Quand on lit plus loin, notamment tout à l'heure, Jonathan, pour introduire la Sainte-Seine, a parlé de ce passage. Quand on lit plus loin, dans Ésaïe 53, verset 5, allez, on va le lire, on connaît bien, mais on va quand même le lire, parce que peut-être que quelques personnes ne connaissent pas ce passage. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez ? Ça, c'est l'intervention de Dieu. C'est l'intervention de Dieu pour le peuple. Rien n'est en bon état, aucun soin prodigué, aucun soulagement. Dieu voit tout cela. Mais à un moment donné, Dieu va intervenir. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. On n'a pas lu tout Ésaïe 53, mais d'ailleurs tout le prophète Ésaïe nous parle de Jésus, à tel point que certains l'ont appelé même, l'ont surnommé l'Évangile selon Ésaïe. Tellement Ésaïe est précis dans ses prophéties au sujet de Jésus. Et ce passage est repris dans le Nouveau Testament au sujet de Jésus, parce que il est prophétique, ce passage, Et il nous parle de Jésus. Or, il nous est parlé des meurtrissures de Jésus, que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Toute la parole de Dieu, toute la Bible, avec ses 66 livres, converge vers une personne, pour nous présenter une personne, pour élever une personne, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Et pourquoi c'est si important ? Parce que sans lui, nous ne sommes rien, sans lui, nous ne pouvons rien. On se débat inutilement. Parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. De quoi nous parlent ces meurtrissures ? Jésus a été cloué sur la croix. Ces meurtrissures nous parlent de son amour, c'est par amour pour chacun d'entre nous. Ces meurtrissures, lorsque nous les considérons avec foi, cela nous rappelle l'amour que Jésus a eu pour nous. Les blessures d'un ami prouvent son amitié, sa fidélité. Dans son amour, mais qui pourrait être aimer quelqu'un jusqu'à se sacrifier pour cette personne. Surtout quand cette personne est son ennemi. Jésus l'a fait pour chacun d'entre nous. Et c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il l'a fait. Et en Jésus, Dieu nous exauce. En Jésus, Dieu répond à nos prières. En Jésus, Dieu nous bénit. En Jésus, Dieu étend sur nous ses grâces et ses bénédictions. Oui, merci Seigneur. Il n'y a peut-être plus rien à faire dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Humainement, il n'y a plus rien à faire, mais Jésus est celui qui intervient. Il n'y a plus rien à faire, peut-être que les médecins ont dit « il n'y a plus rien à faire », mais Jésus est celui qui peut faire quelque chose. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il est venu pour guérir les corps, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour nous apporter le pardon de nos péchés, il est venu pour nous faire grâce du salut, afin que nous puissions passer avec lui l'éternité. Il guérit les cœurs brisés. Alléluia. On va prier ensemble, celui qui est présent au milieu de nous ce matin. Peut-être que certains se retrouvent dans ce verset. Il n'y a rien en bon état. Rien. Rien. Parfois, on peut se consoler parce qu'on se dit, bon, ben, ça va pas, mais au moins, il y a ça qui va. Au moins, il y a ça qui va. On se console avec ce qui reste de bon. Mais là, rien n'est en bon état. Et non seulement rien n'est en bon état, mais après avoir essayé certains remèdes ou autres, rien n'a fonctionné. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il a entendu vos cris, comme il a entendu les cris de cet homme. Il a entendu les cris de cet homme. Il entend aussi les cris silencieux, ces cris qui sont dans les cœurs. Jésus peut faire quelque chose pour vous. Il est le roi de gloire, le Fils de Dieu. Comme nous l'avons entendu dans ces différents témoignages, il répond aux prières, il intervient. Même parfois avant qu'on ait prié, Dieu vient à notre secours. Il vient à notre secours. On va ensemble prier le Seigneur. Merci, étends ta main sur tous ceux qui sont malheureux, sur ceux qui ont besoin de ta grâce. Ô Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Quel bonheur, quelle joie d'avoir entendu ces témoignages, nous rappelant que tu es vivant, Seigneur, que tu n'as pas changé encore aujourd'hui. Tu guéris les malades. Encore aujourd'hui, tu délivres les malheureux. Seigneur, encore aujourd'hui, tu es béni, Seigneur, le corps comme l'âme. À toi soit toute la gloire. On va prier. Encore, peut-être que quelques-uns ont besoin de la prière. Particulièrement, ils ont besoin que Jésus intervienne dans leur vie. Je me rendrai simplement de voler la main à votre place. Il est celui qui peut intervenir. Il vous aime et il a toute autorité. Oui. Oui. Merci Seigneur. Quelques personnes ont levé la main. Merci, je vous ai vu aussi. On va prier notre Seigneur. Il est celui qui règne dans ce lieu. Tu vois, Seigneur, c'est bien-aimés, Seigneur, qui ont un fardeau. dans leur cœur qui leur pèse. Tu vois ces bien-aimés atteints peut-être pour certains de maladies, pour d'autres, peut-être un cœur brisé, un problème de famille. La situation semble à leurs yeux désespérée, Seigneur. Plus rien à faire. Peut-être que même certains ont entendu des paroles de condamnation. Peut-être même la médecine les a condamnés en disant « il n'y a plus rien à faire ». Mais je veux te prier pour ces bien-aimés. Parce que même si humainement il n'y a plus rien à faire, c'est sans compter sur ta puissance et ton amour. Alors Seigneur, dans ton amour et avec ta puissance qui est au service de ton amour, Seigneur, je veux te prier pour ces bien-aimés, Seigneur. Afin que tu interviennes comme tu es intervenu pour cet homme, comme tu es intervenu pour ce lépreux et puis pour bien d'autres personnes, comme tu es intervenu pour ces bien-aimés que nous avons entendus tout à l'heure dans leur témoignage. Seigneur, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu compatissant, toi celui qui entend nos prières, étends tes mains de bénédiction sur eux. Oui, tu es Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a toute autorité, qui un jour est monté sur la croix. Mais la mort n'a pas eu raison de toi, tu es ressuscité. Tu as roulé la mort, à toi soit donc la victoire, Seigneur. À toi l'honneur, la force et la puissance, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen.